100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonjour Jean-Sara Méa, vous êtes de retour parmi nous pour nous parler une fois encore de la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois sur un autre anniversaire, les 80 ans d'une tâche immense, rapatriée en 150 jours entre 3 et 4 millions de Français.
Oui, c'est quelque chose de bien oublié qui a été une tâche magnifique et bien réalisée et dans un contexte extrêmement difficile. Alors, nous sommes au mois de mai, il y a 80 ans, 1945, l'armée allemande est vaincue, elle a déposé les armes, mais il y a entre 3 et 4 millions de Français qui ne sont pas en France. Et c'est à l'État, qui est un État provisoire, ce n'est pas encore la 4e République, c'est à l'État d'organiser leur rapatriement, et ça va être extrêmement compliqué. Et on l'a bien oublié. C'est normal, on oublie les périodes particulièrement compliquées et difficiles. Mais néanmoins, pourquoi ne pas le rappeler ?
Tout à fait. Et alors, quels sont ces Français ?
Alors, détaillons un petit peu. En 1940, lors de la défaite militaire de la France, ce sont 1 800 000 prisonniers qui sont faits par l'armée allemande. Pas tellement sur le front. Hein. Le maréchal Pétain, à partir du 17 juin, avait dit « Je demande l'armistice, c'est fini ». Alors, les gradés de l'armée française ont fait entrer dans les casernes quasiment toute l'armée française. Et l'armée allemande les y a accueillis. Bon, il y a ceux qui ont été prisonniers au combat, bien sûr, mais ça n'a pas été la majorité. 1 800 000, c'est rare dans l'histoire. Alors, il y avait eu des libérations, les anciens combattants de 14-18, ceux qui étaient trop malades, quelques-uns charges de famille. Bon, il en reste, disons, 1 200 000 qui sont dans des camps de prisonniers. Ce ne sont pas des déportés, hein, ce sont des prisonniers de guerre qui sont correctement traités, même s'ils ont un petit peu faim. Ils reçoivent des colis de leur famille, ils reçoivent des lettres. Mais ça a été long. Depuis juin ou début juillet 1940, on est en 1945. Et ils sont impatients de rentrer, de retrouver leur famille, d'essayer de trouver du travail, de trouver leur épouse, leur promise, leurs enfants, bien souvent. Bon. Ensuite, il y a 700 000 Français, ce sont les requis du travail depuis le printemps 1943, ce qu'on a appelé le STO, Service du Travail Obligatoire. Au moins 700 000 se trouvent dans les usines allemandes, sous les bombardements des Alliés. Et là aussi, la guerre est finie, ce sont des jeunes. C'était ceux qui étaient nés en 20, 21, 22. Donc, ils ont un peu plus de 20 ans. Et ils sont pressés de rentrer dans leur famille qui a besoin d'eux, s'ils sont paysans, ouvriers, employés. Et au moins 700 000. Ensuite, il y a ce qui a été le plus difficile. Les malgré-nous. Les malgré-nous, c'est des dizaines de milliers d'Alsaciens et de Mosellans. Rappelons que Hitler avait violé l'armistice dès juillet 40 en annexant l'Alsace et la Moselle, ce qui n'était pas prévu dans les conditions d'armistice. Donc, les Alsaciens et le Mosellan devenaient allemands. Donc, les jeunes en âge, et quelquefois moins jeunes, en âge de service militaire, à partir de 43, ont été mobilisés et envoyés sur le front italien, sur le front russe, etc. Les autorités françaises ne savent pas où ils sont, puisqu'ils sont dans l'armée allemande et un certain nombre dans la SS. Et ce n'étaient pas des volontaires. Loin de là. Il y avait quelques volontaires, mais ce n'étaient pas très nombreux. Donc, il y a ce que l'on va appeler les malgré-nous. Ensuite, il y a tous ceux qui sont partis volontairement travailler en Allemagne, parce qu'il y a eu une grande propagande dès 1941. Venez travailler en Allemagne, vous serez bien payés, etc. Ce qui était à peu près vrai. Mais là aussi, c'est des dizaines de milliers de travailleurs volontaires. La guerre est finie, l'Allemagne n'a plus de quoi les nourrir et ne va pas les garder. Il y a les déportés. Les déportés, là aussi, ce sont des dizaines de milliers. Alors, eux, ils ne reçoivent pas de colis. Ils ne reçoivent en général pas de lettres de leur famille. Ils sont dans les très nombreux camps de travaux forcés en Allemagne et en Autriche. Et les autorités françaises ne savent pas, ils n'ont pas les listes, hein, ils ne savent pas où ils sont. Et au moment de la fin de la guerre, l'armée allemande les met sur les routes pour effacer un certain nombre de traces. Bon, on connaît hein, Dachau, Buchenwald, etc. Et puis il y en a Mauthausen, il y en a en Autriche, l'Autriche est allemande. Donc là, ce sont aussi des dizaines de milliers de Français. On ne sait pas combien ont survécu. Alors maintenant, on a les chiffres, c'est 60%. 60% des déportés politiques. Des déportés, c'était des gaullistes, des communistes, des socialistes, des résistants. Bon, l'Allemagne déportait tous ceux qui pouvaient travailler et qui pouvaient être un risque pour leur régime. Il va en revenir 60% dans un piteux état. Il y en a qui font plus que 35 kilos et quelquefois moins. Et puis alors, il y a les déportés raciaux. Les juifs et les tziganes, là, ils sont... 70 000, il va en revenir 3%. Ça n'a rien à voir avec les déportés du travail, disons, ou les déportés politiques. Ce sont les déportés raciaux qui, on retient Auschwitz, mais il y avait 4 ou 5 ans de la mort de masse, et on ne sait pas du tout où ils sont, ni combien ont survécu. Et on aura les chiffres à l'automne, c'est 3%. 3%. Hommes, femmes, enfants. Donc voilà, en résumant, tout ce qu'il faut rapatrier.
Ça fait un sacré nombre. Et j'allais demander où ils sont, mais vous y avez un peu répondu.
Ils sont un peu partout dans le Grand Reich allemand, c'est-à-dire territoire de la Grande Allemagne, en Pologne, qui était rayée de la carte, et dans l'Autriche allemande. Voilà.
Et qui va s'en charger de cette tâche immense ?
Alors, le général de Gaulle, qui est le chef d'État provisoire, puisqu'il n'y aura des élections fondamentales qu'à l'automne 1945. Le général de Gaulle avait désigné depuis des mois, depuis mi-44, il avait désigné un grand résistant, Freinet, qui avait survécu à toutes les rafles et à toutes les recherches de la Gestapo, ce Freinet qui avait créé un grand réseau, qui avait créé un journal également, c'était le plus fort tirage des journaux clandestins de la Résistance. Donc c'est lui qui est chargé par le général de Gaulle de former un ministère. Et il va y avoir jusqu'à 3000 personnes. Et... Henri Freinet va demander l'aide de la Croix-Rouge, évidemment, c'est un peu son rôle, mais aussi de très nombreuses associations qui existent déjà, d'aide aux prisonniers, de recherche de déportés, etc. Donc c'est beaucoup de monde qui va s'occuper de cette tâche humaine, humanitaire, dans des conditions... très difficile.
Et quelles sont les difficultés qu'il rencontre, justement ?
Alors, la France n'a plus que 10% de véhicules par rapport à 1939 qui puissent rouler. Les voitures, de toute façon, il n'y a pas d'essence. Les pneus, quasiment pas. Les camions, il n'en reste plus que 10%. On est à la fin de la guerre. Il y a encore priorité aux armées. Priorité à l'armée française, qui est commandée par Delattre Tassigny, priorité à l'armée américaine, priorité à l'armée anglaise, qui viennent d'écraser les forces militaires allemandes. Et il y a priorité pour ces centaines et ces centaines de milliers de soldats américains, français, britanniques, qui sont en Allemagne. Il faut les ravitailler, il faut les nourrir, il faut eux aussi les rapatrier. Ce n'est pas le rôle de l'État à Paris, mais disons que les forces armées ont une large priorité. Puis il faut nourrir tout ce monde, alors que l'économie s'est effondrée. Il faut changer les marques, puisque tous ces Français ont des marques allemands, en francs français. Quel taux de change ? Ça ne peut pas être celui de l'occupation. L'inflation est très forte. Le marché noir permet aux plus riches de survivre. Mais c'est... Et il ne faut pas oublier que la guerre, surtout dans le nord et le nord-est, a continué jusqu'au 8 mai. Les poches de l'Atlantique, Saint-Nazaire, Dunkerque, même si c'est la Manche, Royan, ont été tenus par l'armée allemande jusqu'au 8 mai, avec des combats. Donc, la France est en grande partie détruite, que ce soit les villes qui ont été bombardées, et où il n'y avait pas de construction de logements neufs, évidemment, pendant l'occupation, et une grande partie des ponts, que ce soit des ponts routiers ou des ponts ferroviaires, sont détruits. Avec des itinéraires de remplacement, mais c'est extrêmement compliqué à gérer et on ne reconstruit pas un pont en quelques semaines. Même s'il y a le génie américain qui va nous prêter beaucoup de matériel. Mais bon, donc, il y a toutes ces difficultés. Et puis, enfin, plus de 3 millions de personnes, ce sont des adultes qui attendent un emploi, qui attendent de faire vivre leur famille. Mais... dans une économie qui s'est effondrée, qu'est-ce qu'on peut leur trouver comme emploi ? Ce n'est pas possible dans les semaines ou les premiers mois de l'après-guerre. Donc, il faut bien avoir à l'esprit cette situation extrêmement délicate, complexe, que l'État doit gérer parce que les gens sont impatients. C'est normal, après 4 ou 5 ans, et les gens se disent « Bon, l'Allemagne est vaincue, tout va redevenir normal. » Eh bien non, et non. Les usines ne produisent plus, l'agriculture n'a plus d'engrais, ni de main-d'œuvre. Donc, le retour à la normale, ce sera en 49. Les gens ne peuvent pas le savoir, évidemment. Mais il n'y a pas de retour possible à la normale, ce qui va engendrer une réelle exaspération.
Et on parle là de ceux qui sont rentrés, mais est-ce que tous les Français qu'on a voulu rapatrier ont été rapatriés ?
Alors, la petite question délicate. Il y a quelques milliers de Français qui se trouvaient bien en Allemagne et qui souvent avaient fondé un foyer et qui ne tenaient pas à rentrer parce que souvent ils avaient une épouse et pendant que le mari de l'épouse était sur le front russe, ben, il y a eu, surtout dans les campagnes, mais pas seulement, il y a eu des idylles et il y a eu des enfants, des dizaines de milliers d'enfants. Tout comme il y a en France 200 000 enfants qui sont nés de papas allemands. Bon, ça c'est une question humaine qui est très difficile à régler. Donc il y a un petit nombre, on n'a pas le chiffre exact, c'est quelques milliers de Français qui sont restés et qu'en général les familles allemandes ont mis dehors ensuite. Avec tout le problème de reconnaissance ou non des enfants s'il y en avait. Ce n'est pas l'essentiel. Il y a deux catégories qui ne vont rentrer en France que bien plus tard. Ce sont les prisonniers de guerre français libérés par les Russes, donc à l'Est. Prusse orientale, Pologne, Allemagne libérée et conquise par l'armée soviétique, donc la partie Est de l'Allemagne, même chose pour l'Est de l'Autriche. Bon, ils ne peuvent pas rentrer parce que tout est détruit. Ils ne peuvent pas rentrer par les chemins de fer vers la France. Donc, ils vont traverser une Union soviétique détruite par chemin de fer, par Kiev, par Odessa. Ils vont embarquer à Odessa sur des navires qu'envoient les Américains et la France. Ils vont s'arrêter à Constantinople. Ils vont s'arrêter à Naples, où ils vont voir l'éruption du Vésuve. Et ils vont arriver à Marseille. Mais évidemment, pas dans le même timing que ceux qui vont pouvoir être rapatriés par train et par camion directement de la frontière allemande, c'est-à-dire par le nord et le nord-est de la France. Et puis alors les malgré nous. Parce que se pose là un problème très délicat. lorsque les malgré nous sont pour l'essentiel faits prisonniers par l'armée russe, puisqu'ils avaient été envoyés sur le front de l'Est. Le front italien n'existe plus à l'époque. Donc c'est l'armée rouge qui fait prisonnier les malgré nous. Mais l'armée rouge s'aperçoit très vite que énormément de soldats allemands se font passer pour Alsaciens et Mosellans pour être bien traités. C'est-à-dire pour être traités comme des Français. Donc au bout de 2 ou 3 semaines, l'armée rouge fait savoir à la France, mais dites donc, on est envahi de malgré nous. Mais c'est des vrais soldats allemands, hein. C'est pas des Français. Alors, nous, on les met dans des camps de prisonniers et on triera ça plus tard, parce que pour l'instant, on a autre chose à faire. Donc, une partie des malgré nous mourra de faim et de mauvais traitements dans les... Parce qu'ils parlent allemand, les Alsaciens et une partie des Mosellans, ils parlent allemand. Alors, ils ne sont pas bien traités dans les camps de prisonniers soviétiques. Et d'ailleurs, l'économie soviétique ne permet pas de leur faire un traitement exceptionnel. Et les survivants, qui ont énormément souffert, évidemment, et qui essaieront de se faire reconnaître, la France va faire des listes en Alsace et en Moselle, les transmettre aux camps de prisonniers en Union soviétique, en leur disant, ben oui, ce sont des Alsaciens et des Mosellans, donc rendez-les nous. Mais ça va se faire jusqu'au début des années 50.
C'est long.
Eh oui.
Merci Jean-Sarah Méa pour cette histoire.
Merci à toutes et à tous.
À la semaine prochaine.
Tout à fait.